Créodyssée. Voyager et se perdre dans la création. Un podcast présenté par Géraldine Jojou et réalisé par Éric Blanc.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Créodyssée, le podcast consacré aux artistes, chercheurs, innovateurs et à l'analyse du processus de création. Nous voilà à une dizaine d'épisodes et pourtant nous avons à peine exploré le continent de la créativité et soulevé le voile sur son environnement culturel et sociétal. À peine 2 à 3% de l'espace concerné ? Mais pourquoi des chiffres ? Très peu scientifiques, croyez-moi, si ce n'est pour nous réjouir d'avoir encore tant à découvrir. À chaque capsule, c'est un grand plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, femmes ou hommes, et d'être fasciné à leur écoute par le récit de leur parcours et par le témoignage qu'ils apportent sur l'énergie, le temps, les pensées et l'intention qu'ils accordent à leur passion. Loin de la dispersion et du zapping, deux éléments qui seraient prétendument la marque de notre époque, ils décrivent des tracés sillonnant profondément et durablement l'espace qu'ils explorent. Loin du mystère d'une création évaporée, issue d'un don ou d'un génie impalpable, déconnecté du reste de la société ou de l'environnement, il donne à voir à quel point nous, êtres humains, lorsque nous créons, nous sommes à la fois la somme de ce que nous recevons et nous restituons à notre tour un quelque chose à la fois unique et sensible à une exposition à la société et à notre connaissance de l'art. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous balader dans un univers assez différent des précédents. Cependant, peut-être y trouverons-nous quelques points communs avec celui de la sculpture, puisque nous allons évoquer une matière à façonner. Celle du tissu, du textile, du drap, de la cotonnade, de la trame, du bouton, de l'aiguille et du fil. L'étoffe nous habille, nous couvre, nous dissimule, nous déguise, nous sublime, nous prépare à une intronisation dans la société, ou bien nous en extrait en nous rendant différents. Le drap ceint notre silhouette et vase ou enserre nos membres, voile ou dévoile, transpose sur nous des couleurs et des volumes inattendus, conférant à notre corps ou à l'espace une carapace longuement travaillée et pensée, à mi-chemin entre le travail de l'araignée sur sa toile et celui des parcs de la mythologie antique tissant le sort de nos destins. Entre nature et divin, le tissu n'a rien d'anodin. Cette écorce de lin ou de coton a sa propre vie. Il tisse une trame que nous suivons des yeux, mais que nous pouvons également toucher et même sentir. Il transforme notre regard sur ce qu'il recouvre, et d'ailleurs, cette couverture a sa propre histoire à raconter. Celle d'heures passées à la former, la transformer, la découper, l'assembler, la coudre, dans le but de participer à la construction d'un personnage, ou pour la création d'une œuvre d'art, la voici partie prenante et dans certains cas, au cœur de l'ouvrage. À son retour à Ithac, Ulysse se déguise en mendiant pour pouvoir observer en toute quiétude les prétendants et les affronter lors d'une compétition. Interrogeons-nous sur ce que nous apporte la confection du drap. Pour Ulysse, la position d'outsider qui lui permet de se préparer à un combat qui doit lui permettre de retrouver son identité. Et pour nous, ne s'agirait-il pas de s'interroger sur l'identité de nos différentes enveloppes existentielles ? Mais ne nous éloignons pas trop du sujet, car aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Véronique Didier. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Costumière et artiste à part entière, puisqu'elle a entrepris dans le cadre de collaborations avec des plasticiens ou illustrateurs de créer dans le domaine du textile. Alors on va commencer, comme à chaque épisode de Créodyssée, par essayer de questionner un petit peu votre parcours. Et on aime bien savoir, nous, si vous venez d'une famille d'artistes, Véronique.
Non, pas vraiment. Je viens d'une famille d'instits. Mes parents étaient instits tous les deux, ma grand-mère maternelle aussi. Donc pas vraiment artistique, mais par contre des parents très manuels, c'est-à-dire à toujours travailler de leurs mains. C'est-à-dire ma mère en faisant beaucoup de cuisine, confiture, ainsi de suite. Voilà, mon père travaillait beaucoup de bois en dehors de son métier d'instit. Et puis, j'ai des parents qui ont quasiment construit leur maison. Donc ça aide, si vous voulez, à travailler de ses mains.
Et ça vous a inspiré, vous pensez, dans votre façon de vous
Alors,
voir, vous ?
Il y a ça, et puis autre chose, c'est que j'ai une grand-mère paternelle qui, depuis toute petite que je me rappelle, me parlait de sa couturière, enfin de la couturière de sa propre mère, qui lui faisait des robes et qui, du coup, lui faisait des robes à elle aussi. Mmh. Donc j'ai toujours entendu parler ma grand-mère de sa couturière qui faisait des robes comme ci, comme ça.
Il y avait une fascination autour de ce travail, peut-être ou...
Je sais pas trop si ça a démarré de là, mais...
C'est quelque chose que vous avez retenu, en tout cas.
Ben oui, puis moi, j'ai commencé très tôt à faire des habits à ma poupée.
Ah oui, à quel âge ?
Alors, j'ai des souvenirs de moi en train de coudre dans la cour de l'école où habitaient mes parents. Et si je ne me trompe, mes parents, on a déménagé en 72 ou 73, je ne sais plus trop. Donc, je devais avoir, dans la cour de l'école, je devais avoir 7-8 ans.
Mmh. Et vous vous rappelez qui vous a appris le geste, le premier geste, donc, quand vous étiez enfant?
Oh, bah, je pense que c'est ma mère.
Ouais. Qui vous a montré comment ouais. coudre.
Ma mère cousait aussi sur sa machine à coudre à pédale. Elle tricotait, beaucoup. Elle a cousu. Donc je pense que c'est elle qui m'a appris. Puis peut-être ma grand-mère. J'ai pas. Je pense que c'est toutes les deux.
Ma mère
et ma grand-mère qui m'ont appris quand même le geste.
Elle vous laissait récupérer des chutes de tissu,
ah bah,
du matériel.
Des vieux vêtements, voilà. Des chaussettes. Je me souviens de faire des pulls verts dans des chaussettes qui étaient parce que. Déjà, on raccommodait plus les chaussettes, donc je me souviens faire des pulls à ma poupée dans la tige de la chaussette. Et puis des vieux bouts de drap, et puis découper dans des vieux vêtements qu'on mettait plus, parce que... Alors, à cette époque-là, j'ai pas vraiment de souvenirs de magasins de tissus. Je pense que je travaillais beaucoup dans... Faudrait que je regarde, j'ai encore mon carton d'habits de poupée, donc... Ouais. Je pense que c'était de la récup, et sans doute... des bouts de tissu qui restaient de quand ma mère cousait nos vêtements.
Oui, que vous récupériez en fait.
Bah, voilà. Qu'on jetait pas, parce qu'à l'époque, on jetait pas. En plus, on avait de la place pour ranger, donc...
Et vous vous rappelez de magazines de mode ou d'images de mode qui vous auraient inspiré à l'époque? Peut-être parce que ça se faisait.
Alors, ma grand-mère était abonnée à Modes et Travaux, Bonne Soirée, un journal qui n'existe plus. Et dans Bonne Soirée, toutes les semaines... Il y avait un petit patron en réduction où il fallait, vous savez, un carré égale 1 cm de côté égale 5 cm sur le papier. Et donc, ma grand-mère se faisait une joie de régulièrement, quand j'ai commencé à grandir, vers 14-15 ans, de m'acheter des patrons, quoi.
D'accord. Parce que vous avez...
Celui-là, il te plaît, si tu veux, je le commande. Je crois que c'était même gratuit, il fallait le demander. Enfin,
ouais. D'accord. Et vous avez intensifié donc votre activité donc, entre les 7 ans et l'adolescence ?
Oui, j'ai vraiment intensifié cette envie de coudre. Et puis, je voulais, à l'époque, éventuellement être dans l'enseignement aussi. J'ai arrêté en seconde des études classiques au lycée à Chalon et pour arrêter et puis démarrer dans la couture quoi.
D'accord.
Donc je me suis retrouvée au LEP Europe.
Vous étiez déterminée assez tôt finalement donc
ouais.
C'était une
vraie
passion.
Parce que alors je vais vous dire pour le coup j'ai un peu mis mes parents sur le fait accompli. Je sais pas où je suis moi allée voir le directeur du lycée à Chalon en lui disant monsieur j'arrête je veux faire ça.
D'accord.
Et donc là j'étais déterminée à arrêter.
D'accord.
Ouais. Et donc à reprendre du coup bah, on régresse un peu hein, puisqu'on revient en ce qu'on appelait à l'époque un BEP. Là, j'ai rencontré un prof extraordinaire.
En quoi vous l'aviez trouvé extraordinaire? Il vous a fait découvrir des techniques ou alors c'était l'univers de...
Non, elle est toujours d'ailleurs. Je suis toujours en contact avec elle sur Facebook. Et elle nous apprenait la rigueur et la technique. C'est-à-dire qu'avec elle, s'il fallait démonter 15 fois, il fallait démonter 15 fois. Donc là, si j'ai des élèves qui m'écoutent après, elles vont se dire « Ah oui, tout vient de là !» Et elle, oui, il fallait que les choses soient vraiment... Et puis, elle avait une façon de vous parler très gentille. On faisait une erreur, bon, elle nous disait, oui, bah, c'est des choses qui arrivent, on va recommencer. Enfin, il y avait rien de... Contrairement à d'autres profs que j'ai eu après, qui c'était moins drôle, mais elle, voilà, elle avait ce côté-là...
Pas de sanctions, mais par contre, une détermination.
Si, des sanctions quand même. À un moment donné, si vous faites un truc nul, c'est nul, quoi. Pas vous mettre 15 si vous méritez 8, mais toujours très juste.
D'accord.
C'est-à-dire une argumentation, j'ai pas eu que des bonnes notes, mais il y avait toujours une argumentation, et puis de toute façon, quand j'avais des mauvaises notes, je le savais avant même d'être notée, donc de toute façon...
À cette époque-là, vous apprenez quoi alors? Toutes les techniques de couture?
Oui, parce qu'à l'époque, je crois qu'à l'époque, le BEP que j'ai passé à l'époque... Je ne suis pas certaine que ce qu'on m'a appris au niveau technique soit équivalent au bac pro de maintenant.
D'accord. C'était plus en intensité ?
Ouais. C'est-à-dire que Alors, je ne jette pas la pierre à l'éducation nationale, hein, c'est pas ça du tout. C'est que en bac pro maintenant, on a une deuxième langue, on a de l'informatique, on a des machins, enfin des tas de matières que nous on n'avait pas. Nous, on avait 16 ou 17 heures d'enseignement technique par semaine.
Ouais.
Et on avait un emploi du temps à 30 heures par semaine, quoi.
Ouais. Donc l'essentiel sur la technique.
L'essentiel voilà. sur la technique, sur la fabrication, sur voilà. Moi, on nous a proposé de passer le CAP en même temps que le BEP. Pour vous donner un ordre d'idée, au CAP, on avait, alors je me souviens plus de l'épreuve du BEP. Alors là, c'est complètement. Par contre, le CAP, ça m'a marqué. On avait une chemise de gendarmerie à faire. Donc avec les poches, les plis, les rabats, la patte sur les épaules, les trois plis de repassage dans le dos, important.
Ouais.
Donc tout ça, on avait 16 heures.
Ouais. Ah oui, c'est un sacré,
Donc, et maintenant, maintenant, c'est plus tout à fait comme ça, quoi.
On n'exige pas la
C'est-à-dire que, je trouve qu'on... J'ai l'impression, à l'heure actuelle, moi j'ai déjà discuté avec des jeunes qui sortent des écoles et tout, alors c'est sûr, il y a un enseignement général plus important que moi à mon époque, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, est-ce que je veux apprendre à coudre ou est-ce que je veux savoir parler l'anglais
Mais... non, mais la question, elle est là, c'est entre la technique et l'ouverture au monde,
voilà
c'est
ça. C'est difficile. Alors je pense qu'il faut, jauger un peu des deux, et ce que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression, alors bon, je n'ai pas fouillé assez, mais j'ai l'impression qu'on a perdu un peu de la technique au profit d'autres choses de plus dans la vie quotidienne, une ouverture à la société. Alors c'est compliqué,
Oui.
Je concède que ce soit compliqué. Mais c'est dommage.
Alors, vous avez enchaîné avec un BTS, industrie de l'habillement, c'est ça ?
Ouais.
À Amiens ?
Ouais.
Donc là,
c'est-à-dire que mon professeur que j'aimais bien, ce professeur-là, je lui ai dit, écoutez, moi, je veux continuer après. Et c'est elle qui m'a poussée parce que, bon...
Vous auriez pu vous mettre à travailler, déjà, avec ce que vous aviez.
Ouais, mais je sentais que c'était pas suffisant.
Vous aviez envie d'en savoir plus.
Ouais, qu'il fallait que j'aille, que je vois autre chose, quoi.
D'accord. Et là, c'était différent, l'industrie de l'habillement.
Eh ben, en fait, moi, ce que j'ai fait, le BEP, c'était essayage-retouche. Donc, ça apprend énormément de choses. Et industrie de l'habillement, c'était plus... on continuait d'acquérir des techniques de couture. Et puis, c'était plus des diplômes pour nous emmener à travailler... dans des postes de cadre et autres en entreprise textile.
D'accord.
Parce qu'à l'époque, il y avait encore des entreprises textiles en France.
Qui ont disparu entre-temps.
Donc, et puis, moi, j'ai continué là-bas. J'ai voulu continuer aussi pour ne pas m'arrêter à bac moins zéro, quoi.
Oui.
Parce qu'en plus, c'était ça aussi. C'est que, bon, je voulais, je voulais continuer et puis avoir des diplômes. Et puis, parce que ça aide quand même dans la vie d'avoir des diplômes, même si...
Et ça vous permettait d'approcher peut-être un milieu un peu plus réservé parce que vous
non,
avez poursuivi
parce que, après, j'ai fait mon BTS toujours dans le même lycée à Amiens en industrie de l'habillement. Bon, ça m'a appris le fonctionnement de l'entreprise. J'y ai fait des stages. On a continué jusqu'en BTS à travailler les techniques des techniques de couture et puis d'autres choses, de l'informatique, fabrication d'une chaîne, mettre en place une chaîne de fabrication et on avait des cours de dessin, de stylisme, enfin c'était assez moi en deuxième année de BTS, je crois qu'on avait tout compris, options compris, on avait 42 heures de cours par semaine.
Donc vous avez vraiment
Ce qui fait que à la fin de l'année on était mortes.
Mais vous aviez un regard différent après sur le monde du textile parce que ça vous a ouvert plein de nouveaux
ça a ouvert plein de choses et puis surtout on a vécu de plein fouet au niveau du lycée la première grosse délocalisation française des industries textiles. C'est-à-dire que l'usine Lee Cooper d'Amiens, qui embauchait, je crois, quelque chose comme 1200 personnes, a fermé pratiquement pour se délocaliser au Maroc ou en Tunisie. À l'époque, c'était comme ça. Et les directeurs de l'entreprise ont eu le culot de venir débaucher, enfin de venir demander à des élèves en BTS, une fois qu'ils auraient leur BTS, de partir là-bas pour apprendre le métier, machin, Moi, on me l'a demandé, j'ai dit jamais de la vie, je vais au Maroc ou en Tunisie pour apprendre un métier, alors qu'il y en a 1200 qui sont sur le carreau à Amiens, quoi.
Oui, c'est un choc moral, j'imagine,
à cette
époque-là.
Ah oui, ça a été un choc, ça a été un choc terrible, et je me dis, mais là, c'est, enfin, pour moi, j'ai compris des choses, quoi. La mondialisation... Le fait aussi que, à part dans les hautes sphères de la direction, où là, on voyait un peu de mecs, mais sinon, il n'y avait que des nanas qui bossaient dans l'entreprise. Donc, le chômage des femmes, on s'en foutait. Donc, de mettre 1200 personnes, c'était vraiment un truc énorme. Hein. Ça a été un choc psychologique sur la ville à l'époque, énorme.
Changement
quoi.
De vie,
En plus, à
dégradation,
l'époque,
il y avait
une mairie communiste à l'époque, donc c'était très... il y a eu des manifs, il y a eu des... Enfin,
ça m'a marqué. Il y a une tentative de résistance qui n'a pas
abouti. Bah non, parce que... Alors moi, j'avais pas compris les choses comme ça à l'époque, mais c'est le travail des femmes. C'est-à-dire que des années après, le combat Goodyear n'est pas du tout le même. Parce que le combat Goodyear, c'est des mecs. Et eux, ils ont tenu des années.
Oui,
parce que je pense que dans la société, alors ça commence à changer, mais le travail des femmes, d'abord, c'est sous-payé. C'est-à-dire que toutes les filles étaient payées qu'au SMIC, mais c'était quand même hyper important pour eux. Et moi, cette époque-là, la dernière année de mes études, ça m'a marqué, quoi.
Oui, vous avez vu la place de la femme dans la société, le fait de qu'elle soit dévalorisée,
dans le textile,
dans
la société et dans le textile.
Et dans le textile,
déjà.
Et dans le nord de la France aussi.
Et dans le nord de la France,
ça joue aussi, parce qu'après la disparition de ces industries, il n'y avait plus grand-chose.
Il y a eu Lee Cooper, après il y a eu une grosse boîte, une quinzaine d'années, 10 ans après, qui faisait des sous-vêtements de la marque de la Redoute et des Trois Suisses, et puis je ne sais plus quoi d'autre. Qui a plus ou moins périclité aussi, donc a remis à nouveau des centaines de nénettes au chômage.
Voilà.
Enfin, c'était...
Et au-delà de ce BTS, donc de ce que vous avez découvert comme ambiance à Amiens, vous allez vers encore un autre univers par la suite.
Eh ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue, quand j'ai fini mes études, il y avait une pénurie, une pénurie de profs dans le textile et autres, et c'était les rectorats qui téléphonaient aux lycées qui avaient eu des BTS et autres pour récupérer des gens pour avoir le boulot de prof. Donc en fait, moi, très étrangement, j'ai terminé mes études au mois de juin. Au mois d'octobre, j'étais prof.
Oui, c'est radical.
À Creil, pendant la grosse période des attentats, là aussi, ça, vous avez le train qui s'arrête au milieu de la route et puis on regarde s'il n'y a pas 15 bombes. À Creil, je me suis retrouvée à être prof avec des premières et des terminales. C'était hyper intéressant. C'était vraiment... ça a été une expérience vraiment super. Et puis du coup, après Creil, je me suis retrouvée... pareil, c'est le rectorat qui est venu me chercher pour être prof de travaux manuels, mais parce qu'à l'époque, on faisait encore de la couture dans les travaux manuels.
Oui, tout à fait.
Donc couture, cartonnage, menuiserie, ainsi de suite. Et puis après, c'est le LEP Europe qui est venu me chercher. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu besoin de demander
de chercher,
quoi que ce soit.
Voilà. Et alors, le métier de costumière, comment vous y accédez ?
Ça m'est tombé dessus. À l'époque, moi, je voulais, en dehors d'être éventuellement prof, j'ai pas continué pour être prof parce qu'en 88, on a demandé bac plus 3. Et moi, je voulais pas reprendre des études. Donc, j'ai dit, je serai pas prof. Et je voulais éventuellement faire du stylisme masculin, mais c'était très serré, puis pas de relation dans le domaine. Et je présente le 6 décembre 86 un défilé de mode au musée de l'automobile où on est venu me chercher parce que je faisais de la mode masculine. Donc on était 6 ou 7 stylistes là-bas. Et le gars qui régissait le défilé était le directeur technique de la Comédie à l'époque. Et on a vraiment sympathisé. Et puis quand je me suis retrouvée au chômage de l'éducation nationale en janvier 88, il me dit « Écoute Véro, à la Comédie, on bosse sur un spectacle et la costumière, elle n'arrivera jamais à faire tout toute seule. » faut que tu viennes lui filer un coup de main. Et je lui dis, alors il me dit ça en décembre, un peu de temps après le défilé, je lui dis, écoute, théâtre.
Ouais. Ça vous tentait pas à l'époque?
Bah, le théâtre, enfin avec tout ce qu'on entendait autour, que je me dis, oh le théâtre, non, machin. Et puis il me dit, écoute, écoute, t'es au chômage, quoi. Enfin bon, tu viens, quoi. Il y a là pour un mois de travail, ça t'engage à rien. Et donc, il m'invite, il me dit, voilà, il y a une lecture du texte, donc viens écouter le texte et tout. Et là, ça a été pouf.
C'est-à-dire, vous êtes tombé en amour?
Rien que l'ambiance du truc.
Coup de foudre.
Les voir, c'était le chariot de terre cuite de Claude Roy, l'écrivain. Et j'ai trouvé que l'ambiance était super. Mm-hmm. Tout de suite, j'ai sympathisé avec un comédien qui m'a dit « Alors, tu fais quoi ici ?» J'ai dit « Bah écoute, je viens voir si je fais de la couture. »« Ah ben c'est génial, tu verras. » Enfin. Voilà, bon, moi j'avais à l'époque 25 ans, jean, basket, enfin.
Et là, vous côtoyez le monde artistique, bah ouais, plein de gens différents.
Puis je me rends compte que, enfin là, en tout cas, sur cette équipe-là, il y avait vraiment des gens extraordinaires, quoi, ça m'est tombé dessus.
Ouais.
Et quand j'ai fait le boulot au mois de mars, donc mars 88, si je ne me trompe, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi.
Ouais, c'est le domaine dans lequel vous vous voyez enfin.
Ouais. C'est-à-dire que, on va dire un an avant, vous m'auriez dit, Véro, tu vas faire du théâtre. Non, certainement pas. Alors, j'avais quand même eu, pendant mes 4 années d'études à Amiens, j'ai quand même traîné ce qu'on appelait à l'époque la MACU, la Maison de la Culture, je crois que ça s'appelle toujours comme ça. Pour aller y voir, j'y ai vu un nombre inouï de spectacles de marionnettes, parce que les marionnettes à Amiens, La Fleur, et puis... Donc déjà, c'était quand même déjà... Enfin, j'étais déjà... j'avais déjà
nourrie
vu,
ce type de spectacle.
J'avais déjà vu énormément de spectacles. C'est-à-dire qu'on nous... Moi, on n'était pas obligé de m'obliger à aller voir les spectacles avec les profs de français.
C'était quelque chose qui vous plaisait, déjà une accroche.
Oui, parce que je prenais déjà... En plus, j'habitais à 200 ou 300 mètres de la Maison de la Culture, donc...
Alors, vous avez travaillé avec la Comédie, l'Opéra de Reims, avec le Conservatoire, avec plusieurs institutions.
Ouais.
Finalement, vous n'êtes pas rattaché à cette époque-là, forcément, qu'à une seule.
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé à la Comédie jusqu'en 92-13. Donc, toute l'époque de Denis Guénoun et puis le début de l'époque de Christian Scaretti. Et puis, à ce moment-là, j'ai rencontré... Jean et Colette Roche qui travaillaient beaucoup aussi à la Comédie. J'ai commencé à être leur costumière. Et puis après, j'ai comme techniquement, je suis au top dans tout ce que je fabrique. Évidemment, les gens dans le spectacle qui avaient besoin de costumes techniques sont venus me chercher, enfin, se sont rendus compte tout de suite des choses. Donc, la danse, le cirque, surtout la danse. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses en danse contemporaine. Et puis, après, dans les années, début des années 2000, j'ai commencé à rentrer à l'opéra, mais sur les décors. C'est-à-dire que, comme à la Comédie, j'avais aussi, à l'époque de Denis Guénoun, fabriqué un chapiteau de cirque dans le hall. Ça s'est su aussi que je pouvais faire des choses un peu importantes. Et donc, l'opéra m'a appelé essentiellement pour travailler des toiles sur les décors. Donc, des trucs énormes.
Et alors là, tout ce, entre les costumes et les décors, comment vous percevez alors ce travail de costumière? Est-ce que c'est être au service d'eux? Ou alors, est-ce qu'il y a une part de créativité? Est-ce que c'est dans la négociation?
Alors, il y a deux choses différentes qui font que j'en suis arrivée là où je suis maintenant. C'est que quand moi, j'ai commencé, il y avait... on pouvait être à la fois créatif et au service d'eux. C'est-à-dire qu'on était au service de la personne qui nous disait, bon, ben voilà, si on avait la chance d'assister à des répétitions... qu'on vous appelait pour le faire, on pouvait... moi, j'ai pu faire des maquettes, proposer des choses, des formes, argumenter et tout ça. Donc ça, c'était super bien. Puis plus on avance, plus j'ai avancé dans ma carrière et dans le temps, plus le temps de préparation s'est réduit et autres, et moins j'ai pu proposer des choses.
Pour des raisons financières, vous diriez? Ou des pratiques différentes?
Alors, moi, je parle que de moi. D'autres costumières vous feraient peut-être un autre discours. Mais de ce que j'ai vécu, il y a un mélange de plusieurs choses. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, on avait des vraies périodes de travail dans le même lieu. Donc ça permettait de s'installer, de voir des choses et autres. Et puis plus on a avancé, bon moi je suis à 32, 33 ans de carrière, je ne sais plus. Il y a les problèmes de finances. Après, comme il faut rentabiliser... Enfin, moi, c'est comme ça que j'explique les choses. Hein. J'ai peut-être tort, mais on ne pouvait plus monopoliser des salles de spectacle trop longtemps. Donc, on a commencé à proposer que des résidences de 15 jours, 3 semaines, machin.
De moins en moins de temps.
Mis bout à bout, c'est pareil. Mais quand vous faites une semaine de résidence à un endroit, une semaine deux mois après dans un autre endroit, il faut tout remettre en place. Donc, vous perdez une journée à chaque fois.
On casse le dynamisme.
On casse le dynamisme. Et puis, il y a des problèmes de finances aussi, dans le sens où il y a une quinzaine, vingtaine d'années, on a commencé à voir arriver des scénographes qui vont gérer décors, costumes et ainsi de suite. Donc, ça faisait une personne de plus dans l'équipe artistique plastique, j'entends, avec le même budget.
Oui. Et qui prenait peut-être les décisions cette fois-ci, voilà. Ça, c'est en fonction des personnes.
Je ne dirai rien. J'ai encore quelques années à faire. Donc, je ne dirai rien. Mais oui, il y a un peu de ça, évidemment. Donc, avec moins de créativité, moins de ci et ça. Et puis, en parallèle de ça, j'ai trouvé, moi, dans les compagnies un peu plus régionales, que finalement, le costume commençait à perdre un peu de son intérêt, donc on a commencé à m'appeler de plus en plus tard sur les créations, genre, oula, dans 15 jours, on joue à l'Overo, tu peux nous faire des costumes.
Les délais étaient trop courts, et voilà,
vous
sentez oppressé.
Vous proposez rien, vous pouvez rien proposer, parce que le metteur en scène ou la chorégraphe va vous dire, j'ai envie de ça, machin, voilà. D'un point de vue créatif, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a une dizaine d'années, on a vu arriver la vidéo, où là, tout le monde s'est engouffré là-dedans, je veux de la vidéo sur scène. Donc, on a toujours le même budget de départ.
Hein. Ouais. Donc,
c'est-à-dire que le budget de départ qui était costume, décor, éclairage est devenu costume, décor, éclairage, scénographe, vidéaste.
Et là, forcément, on pressure sur...
on pressure sur tout le monde.
Sur tout le monde, voilà.
Sachant qu'il y a, arrive là-dessus aussi tout le matériel technique qu'il faut acheter pour projeter, pour scier ça.
Et là, vous vous sentez étranglée un petit peu, avec une envie d'autre chose.
Bah oui.
Ouais.
Parce qu'il n'y a plus vraiment de création.
Il n'y a plus d'espace.
Non.
Il n'y a plus d'espace pour vous.
Il n'y a plus d'espace, c'est ça.
Ça vous amène à faire une nouvelle formation, c'est ça, en 2016
En fait, moi, depuis le tout début, alors aussi peut-être parce que rien... Enfin, le hasard n'existe pas. Pensez ce que vous voulez, mais le hasard n'existe pas. Le premier spectacle sur lequel j'ai travaillé, Le chariot de terre cuite, avec mise en scène par Patrick Lemouf, avec... Béatrice Viard comme costumière, elle s'est inspirée dans son travail du travail de qui ? Sonia Delaunay. Et qu'est-ce qu'elle a fait sur là ? Elle a peint des costumes. Elle a peint du tissu qu'elle a utilisé, enfin bref. Et moi, depuis le début, je me dis, de toute façon, pour moi, le costume, ça doit être en dehors du temps. Ça doit être quelque chose qui fait partie du personnage. Et
ce n'est pas une reproduction historique,
non.
Alors pour vous, du tout.
Alors, il y a des reconstitutions historiques, mais vous ne demandez pas à Picasso d'avoir un visage... on a tous des lunettes, là. Vous ne demandez pas à Picasso de faire vos lunettes sur votre nez, parce que Picasso va le faire de côté, et ainsi de suite. Donc, pour moi, le costume, il faut que ça donne quelque chose au rôle... Et c'est pas forcément une reconstitution historique.
Parce que
Molière, il serait né, Molière ou Shakespeare serait né au 21e siècle, c'est sans doute Gautier ou je ne sais qui aurait fait leur costume. Et ni vous ni moi, on est habillés en Jean-Paul Gautier dans ce qu'il fait dans ses créations, parce que c'est autre chose.
C'est de l'art. Et là, c'est de l'art. Cours, c'est de,
voilà. Ouais.
Et vous avez voulu vous rapprocher un petit peu de ça.
Ouais.
En tout cas, vous permettre de vous exprimer.
Voilà.
Ça vient aussi un moment dans votre carrière où vous avez connu quand même beaucoup d'espaces différents, de lieux différents.
Ouais.
Et vous vous dites, c'est le moment pour moi.
Voilà, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu un, il y a eu une période, je sais plus en quelle année, où j'avais moins de travail et tout. Et je me suis dit, j'avais mes points formation continue, là, je sais plus comment on appelle ça. Je me renseigne à la Chambre des Métiers parce que je suis pas intermittente du spectacle, je suis artisan d'art, donc référencée à la Chambre des Métiers, qui me dit vous avez le droit à tant d'heures, machin, payé tant, nanana. Je me suis dit bon, ça fait tellement longtemps que tu veux peindre du tissu, il faut que tu fasses une formation. Mm-hmm. Donc le Greta Design et Métiers d'Art, je crois, proposait une formation peinture sur tissu. Patine et puis je sais plus quoi, enfin broderie. Mm. Donc j'ai fait cette formation et là je suis tombée sur des formateurs vraiment très très intéressants qui nous ont sur un mois nous ont expliqué toutes les possibilités de peindre sur le tissu. Mm-hmm. De la peinture classique, pinceau, machin, donc les qualités de peinture. Mmh. Parce que vous peignez pas sur le tissu avec n'importe quelle peinture. Quand ça sèche, il faut que ce soit souple et ainsi de suite. La sérigraphie, le pochoir, enfin toutes ces choses-là, quoi.
Et là, vous êtes dit, ça y est, j'ai les armes, j'ai les outils.
Voilà.
Il y a plus qu'à.
Voilà, c'est ça. Et tous, pareil, tous s'imbriquent l'un dans l'autre. À ce moment-là, l'Opéra de Reims me contacte en me disant, écoute, il faut qu'on refasse tous les pondrillons de l'opéra. Est-ce que le projet t'intéresse? Je lui dis, au gars qui me contacte, je lui dis, mais c'est un peu fou ce que tu me demandes là. Donc, je lui dis, laisse-moi le temps de réfléchir un peu. Je réfléchis, puis je me dis, après tout, j'ai pas de boulot en ce moment. Le costume commençait un peu à... Le résultat était plutôt plus frustrant que positif. J'ai dit, oui, mais moi, je peux pas faire ça chez moi. Il me dit, t'inquiète pas, tu feras ça à la fileuse, la friche artistique de Reims.
Oui. Ouais.
Donc, j'ai dit, bon, banco, allons-y. Donc, en fait, je me suis retrouvée en 2016, quatre ou cinq mois à la fileuse, à coudre, j'ai cousu 1,260 km de velours. Et pendant toute cette période-là, j'ai donc rencontré des tas de gens, et notamment un peintre que j'adore, qui s'appelle Jean-Luc Breda, et on était très matinaux tous les deux, c'est-à-dire que les deux pimpins qui se retrouvaient à la fileuse à 7h30 le matin, c'était nous deux, donc qu'est-ce qu'on faisait? On se mettait en route, et puis à 8h, 8h15, on se buvait le café, tranquille. Du coup, on a fait connaissance, machin, et puis je lui dis, oh, tu sais, moi, je rêve depuis un bout de temps de peindre des tissus, je lui dis, tu veux pas me... Entre deux, alors, bon, c'est pas toujours évident, mais entre deux, tu veux pas me balancer un peu de peinture sur un bout de drap que je te donne. Et il le fait. Donc, il me donne, du coup, suite à la fin de ma résidence... de fabrication de ces rideaux, j'ai demandé à Elsa Bézori, la responsable, si je pouvais avoir une résidence de recherche sur l'été, parce qu'il y a moins de monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des costumes peints et choses. Donc avec Jean-Luc et puis d'autres, Anthony, Daspanda, c'est qui les autres, Sylvie Hermand... et Bruno Lebon, qui ont participé à mon projet d'exposition de costumes, où là, j'ai travaillé en collaboration avec eux, et où là, j'ai enfin décidé de sauter le cap, de faire des choses purement artistiques, sans aucun support de spectacle. Ça va y revenir.
Alors, vous nous avez présenté un parcours très riche et très original, et vraiment avec... on voit comment les choses s'enchaînent les unes après les autres pour entrer dans le processus créatif. Mais maintenant, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui. On va s'intéresser donc au temps présent, et notamment au travail préparatoire pour réaliser vos créations. Alors, on va commencer d'abord avant la création, puisque maintenant, voilà, c'est vous qui choisissez un peu vos directions, vos projets. Quand vous vous lancez dans un projet, est-ce que vous prenez le temps d'y réfléchir avant, ou est-ce que c'est en commençant à faire que les idées viennent ?
Alors, en fait, pour le moment, c'est des projets auxquels j'ai réfléchi depuis très longtemps. Mmh. Et que j'arrive à mettre en place maintenant. Mmh. C'est-à-dire que je travaille sur du drap, qui est une matière que je travaille depuis toujours. Mmh. Et j'utilise le drap comme la toile blanche du peintre, si vous voulez. Mmh. C'est-à-dire que je réfléchis à ce que je veux mettre dessus. Donc, au-delà de l'exposition que j'ai fait des costumes peints, là, je travaille sur. J'ai commencé à travailler sur sur le drap blanc lié à la broderie, au trousseau, à la condition des femmes. On en revient à cette mm-hmm. histoire de. Mm-hmm. de délocalisation d'entreprise, là, on n'en sort pas, où, en fait, les femmes, le travail des femmes et la condition des femmes qui brodaient les trousseaux dans les familles. Mmh. À la fois les petites filles qui brodaient pour elles-mêmes, et puis les couturières qui étaient embauchées dans les maisons bourgeoises, enfin, les brodeuses qui étaient embauchées dans les maisons bourgeoises ou aristocrates qui avaient de l'argent pour les payer, quoi. Mmh.
Et donc, là, vous êtes allée faire des recherches sur les modèles utilisés ou pas ?
Oui, j'ai fait... quand je me suis dit « je m'y mets », alors merci le premier confinement, quand je me suis dit « je m'y mets et je fais quelque chose », j'avais déjà, moi, fait des recherches sur tout ça, parce que ça faisait déjà un bout de temps que je voulais faire quelque chose autour de la broderie, du monogramme, du travail du drap, et de parce que ça, c'est quelque chose d'hyper dans le fonctionnement des femmes du 19e siècle et début 20e, c'est quelque chose de prégnant, quoi, la fabrication du trousseau.
Mmh. Et, quelque chose qu'on se transmet, en plus. Ça appartient aux familles.
Ouais, c'est quelque chose qui se transmet dans la douleur. Mmh. Les vieilles dames que j'ai interviewées, avec qui j'ai déjà discuté, qui me parlaient de ça, aucune ne m'en a vraiment parlé dans la joie et la bonne humeur.
D'accord. Et dans la douleur, ça fait référence à quoi ?
Parce que dès que les gamines avaient leurs règles, donc étaient capables d'enfanter, on va dire, elles avaient le droit, elles commençaient à broder leur trousseau. Hmm. Donc, elles commençaient à broder leur trousseau avec leur propre initiale, en laissant la place à côté pour le futur mari. Mmh. C'est-à-dire que trousseau
mentale.
Exact égale futur mari. Mmh. Donc, à l'époque, si vous êtes lesbienne ou si vous n'avez pas envie de vous marier, le trousseau, c'est un peu mort, quoi. Oui. Donc, et quand vous voyez des draps blancs où vous avez un petit fil rouge dans un coin du drap et tout, c'est que la nana qui a commencé à broder ce drap avait déjà ses règles. Mmh. Parce que le petit fil rouge, c'est le sang et ainsi de suite.
D'accord.
Et donc le trousseau, avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, que vous avez un petit trousseau, au niveau de votre mari, qui va vous trouver il y a tout un truc autour de ça qui... Alors, évidemment, en arrivant vers le XXe siècle, et puis l'arrivée de l'artisanat d'art, de enfin reconnaître ce travail et tout ça, c'est devenu autre chose. Mm. C'est-à-dire que vous avez les maisons comme Le Sage et ainsi de suite qui ont commencé à ennoblir complètement la broderie et tout, mais en tout cas par rapport au trousseau, c'est pas forcément toujours dans la joie et la bonne humeur, quoi. Mmh,
d'accord. Et vous, par rapport à ça, donc vous avez envie de transmettre quoi, enfin de...
Eh ben de transmettre que de remettre dans le positif le travail des femmes.
Mmh. De revaloriser ce travail qui a été fait autrefois.
Ouais. Ouais.
Alors, justement, vous avez évoqué plusieurs fois le matériau, donc on va parler un petit peu du type de tissu que vous utilisez. Donc, ce fameux drap, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Parce qu'il est particulier.
Ouais. Alors déjà, ce qui est très étrange, c'est que Sainte Véronique est la patronne des lingères.
Ah oui, il y a une prédestination.
Et ça, je m'en suis rendu compte très très tôt. Je me suis dit là, il y a quelque chose. En plus, je suis passionnée de photographe, de photographie. C'est aussi la patronne des photographes, parce que patronne des lingères à cause de Bérénice qui suit Jésus sur sa croix, qui lui met le linceul, et Bérénice est devenue Sainte Véronique. Quoi. Enfin, il y a tout un truc. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc je trouve ça déjà étrange. Et puis je trouve que c'est un matériau extraordinaire. Mmh. C'est-à-dire que d'abord c'est un matériau, les vieux draps c'était encore du coton et du lin sans intrants chimiques et sans tout ça. C'est une matière qui se travaille super bien. Mmh. Faites ce que vous voulez avec du drap.
Qui est plutôt épaisse quand même au toucher.
Ça dépend du fabricant.
Il y en a qui sont fins. Mmh.
Ça dépend du fabricant. C'est-à-dire que vous avez les fabrications dans les Vosges ou dans le Nord, les draps en métal. Les tisses sont un peu plus épais que les draps en lin. Je commence à connaître des peintres qui commencent à se rendre compte que les draps en métis, c'est quand même pas mal pour peindre. Mm-hmm. Donc des peintres qui les mettent sur châssis pour en faire leur toile. Donc je suis pas loin.
Au niveau absorption de la peinture.
Alors eux ils mettent un apprêt dessus, mm-hmm. Mais moi pas forcément parce qu'il faut que ça reste souple si je le travaille en matière souple. Mm-hmm. Mais
Ces draps, vous les avez comment ? Vous les récupérez comment ?
Eh ben, parce qu'en fait, moi, je récupère... je suis une grande réductrice de mes déchets, donc je récupère depuis une trentaine d'années. Mm-hmm. Donc, il y a 30 ans, j'étais la nana radine qui récupère tout, et maintenant, je suis à la mode, donc c'est bien. Je récupère depuis des années et des années des draps. Je connais quelqu'un qui travaille dans un réseau de récupération et qui m'en ramène.
D'accord. Donc qui viennent de familles différentes sur lesquelles il y a encore les broderies.
C'est-à-dire que quand vous avez votre grand-mère ou vos grands-parents qui décèdent, de toute façon, donc dans les gens qui ont entre 80 et 90 ans maintenant, chez tous ces gens-là, il y a des vieux draps blancs dans les armoires qu'on n'utilise plus. Pourquoi ? Parce que maintenant on fait des draps plus fins, donc on préfère les draps plus fins et ces draps vous les récupérez avec les marques jaunes parce que l'humidité du bois c'est rentré dans le drap. Enfin, donc je récupère et j'en récupère qui sont encore emballés dans du plastique avec les prix en anciens francs.
Il y a une odeur particulière de ce tissu ou pas ?
Oui, moi je le reconnais.
Ça vous fait penser
à quoi ? Je
sais
pas, vous avez senti une odeur en rentrant dans mon atelier ?
Oui, c'est difficile à dire ce que c'est.
Voilà. Ça sent le drap.
Ça sent le drap, d'accord. Ouais. C'est l'odeur du drap.
Ça sent le drap, il y en a un là, vous le sentez, ça sent le drap. En dehors, c'est-à-dire que quand vous les lavez, en fait ça sent le drap blanc, ça sent le permanganate de sodium, je crois que c'est ça, oui. Le produit que toutes les grands-mères utilisaient pour blanchir leurs vêtements.
D'accord. Et qui restait en fait dans le drap.
Et ça s'imprègne dans le drap, c'est une odeur c'est une odeur particulière quoi. Et comme moi je réutilise ces produits-là pour blanchir aussi les draps, retirer toutes les traces.
Alors, une fois que vous avez donc ces draps, qu'est-ce que vous faites, un patron, vous faites un dessin, vous partez
ça
comment ?
Ça dépend de ce que je veux faire. La grosse installation sur laquelle je travaille, j'ai fait une maquette, j'ai réfléchi au truc, j'ai fait une maquette, j'ai fait des tests de...
Ce que vous appelez une maquette, c'est en fait une reproduction en petit, c'est quoi ?
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pris des notes, puis après j'ai fait une reproduction en papier un peu épais pour voir ce que ça donnait dans le volume. Mm-hmm. Et puis après je fabrique en taille du drap en fait.
Ah oui. Et cette maquette, qu'est-ce qui vous donne l'idée de la maquette ?
L'installation que je suis en train de faire qui va être la moitié va être présentée au Trésor à la fin du mois. C'est un travail sur l'enfermement des femmes, justement, donc une femme qui est enveloppée complètement dans ses draps et tout. C'est au fur et à mesure de choses. Par exemple, j'ai travaillé la broderie en trompe-l'œil, voyez, comme ce qu'il y a sur mon mur là-bas. Donc, de loin, on a l'impression que c'est de la broderie, mais en fait, c'est de la peinture.
D'accord.
Donc, pour faire des monogrammes énormes, pour faire des... Parce que moi, la broderie, c'est pas forcément mon truc. Mm-hmm. Mais par contre, le trompe-l'œil, je trouve ça génial.
D'accord. Donc, c'est un mélange de techniques que vous avez envie de pratiquer, mais aussi d'images que vous avez envie de donner sur le thème que vous avez choisi.
Et de techniques top. Mm. C'est-à-dire que je trouve que dans le textile, si vous ne maîtrisez pas un maximum de techniques de fabrication, ça vous coupe au niveau de la création. C'est-à-dire que... Ça...
Vous pensez à quelle technique, par exemple, parce que pour qu'on se représente un peu.
Par exemple, des plis, des histoires de plis. Mm-hmm. Moi, j'ai acheté un livre sur la technique des plis de papier au Japon. Mm-hmm. Donc pour essayer de faire des plis
avec les tissus,
Retrouver la méthode des smocks. Mm-hmm. J'ai trouvé aux Emmaüs une boîte pour faire des smocks, une boîte en bois.
Qu'est-ce que c'est les smocks?
Ben les smocks, c'est les robes des petites filles comme on faisait avant avec des tas de petits plis qui sont brodés avec des petits carrés.
Ouais.
Donc maintenant, évidemment, avec la machine à coudre, on met de l'élastique dans la canette et puis on fait des smocks élastiques. Mm. Mais à l'époque, les smocks c'était des petits plis. Ça, pourquoi ça se faisait dans le Vichy? Parce que ça évitait de compter. De tracer au crayon, on avait un petit carreau, un carreau blanc, un carreau rose, un carreau blanc, un carreau rose, ça permettait de faire des plis.
Et ça, vous le faites à la main alors?
Oui, il y a des choses que je fais à la main, ouais.
Ça doit vous prendre énormément de temps.
Bah, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut faire, quoi.
Ouais, ouais.
Alors après, moi, je récupère. En ce moment, je commence à faire une série sur les galaxies, où je travaille toujours sur des draps entiers. Où certaines planètes sont faites avec des napperons, mais comme il y aura de la lumière derrière, parce que comme je suis à cheval sur, je voudrais profiter du fait que je suis à cheval sur artisan d'art et artiste, ce qui fait que mes grandes toiles en drap, je les fais grosses, enfin je vais pas dire grosso merdo, c'est pas poli, je les fais en gros de la taille d'une grande fenêtre, quoi. C'est-à-dire que si je vous pose des anneaux en haut de la toile, vous avez un rideau, enfin vous avez une tenture.
Et là, vous pouvez vous exprimer comme vous avez envie, placer ce que vous voulez, vous vous laissez guider par l'inspiration, ou alors tout est très préparé à l'avance.
Alors c'est compliqué l'inspiration parce que pour tout vous dire, je discutais avec une amie artiste tout à l'heure. Donc mon œuvre qui s'appelle Lueur, que je vais exposer au Trésor, je n'en expose que la moitié parce que sur l'autre moitié, j'ai un grand drap où dessus j'ai fait un moucharabier avec et l'étoile de David et le croissant musulman. Et malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment en Israël, j'ai pas envie de rentrer dans des conversations politiques lors du vernissage et des autres trucs. Donc, je ne l'expose pas. Alors, on est artistiquement pas libre.
Non, on s'autocensure, c'est ça que vous voulez dire?
Bah oui, là, je me suis autocensurée.
Ouais.
Je ne peux pas, si vous voulez, moi, j'ai fait ce moucharabier avec étoile de David et croissant musulman, parce que, de toute façon, dans l'intégrisme de ces deux religions-là, la condition de la femme est la même, pratiquement. Le moucharabier, c'est les petites fenêtres où les femmes enfermées dans les harems pouvaient voir ce qui se passe dehors, donc dans le Moyen-Orient, et il y a à la fois des musulmans, des juifs, et ainsi de suite. Et moi, c'est ça, mon discours, c'est pas politique. C'est pas le Hamas, c'est pas géopolitique. Voilà. Mais actuellement, avec ce qui se passe en ce moment, là, maintenant, tout de suite, en Israël, avec la bande de Gaza et tout, je peux pas exposer ça en ce moment. Parce que je vais avoir le jour du vernissage ou je sais pas quoi,
des
gens qui vont dire « Oh, machin !»
Épidermique.
Trop épidermique.
Alors justement, le fait d'avoir changé un peu d'axe, d'être une artiste désormais, et ça vous met dans un rapport différent avec le public.
Ouais.
Vous avez déjà eu donc des expositions. Est-ce que vous avez quel est le ressenti du public par rapport à
ce que vous
faites? C'est génial.
Ouais.
Comment, enfin vous appréciez le fait d'être vu par du public de cette façon-là?
Ouais.
Oui.
C'est super parce que je fais ce que je veux. C'est-à-dire que j'expose ce que j'ai envie d'exposer, j'expose si je veux. C'est-à-dire que, enfin, si je veux, c'est pas ça. C'est que dans les expos collectives, on me propose d'exposer, bah, j'expose ou j'accepte ou j'accepte pas. Et puis le retour du public est quand même très sympa. Et puis, alors, ce qui est très drôle, surtout sur ma grosse exposition fébrile des costumes peints, là, ce qui est très drôle, c'est que j'ai des gens de théâtre qui m'ont dit « Ah oui, tu fais ça ?»
Qui étaient surpris de vous voir dans ce
rôle-là. Bah oui, ce à quoi j'ai répondu « Bah oui, je te l'ai déjà proposé, mais t'as jamais voulu.
» Ouais. C'est que là, vous avez tout l'espace pour vous exprimer,
voilà.
Et finalement, vous apparaissez différent.
Alors, c'est pas innocent ce que je fais non plus, c'est que j'espère que ça va revenir au théâtre. On est d'accord.
Vous aimeriez y repartir avec ça?
Oui.
Ouais.
Là, la grosse installation sur laquelle je travaille, j'aimerais bien que ça revienne, ce soit un spectacle. Alors au départ, pour moi, c'était marionnette, hein, c'est-à-dire le personnage du milieu qui soit une marionnette parce que j'ai tout le scénario en tête. Ou une danseuse contemporaine, ou enfin voilà.
Avec vous intégrée dans le spectacle finalement, dans la préparation.
Bah, c'est-à-dire que ce que j'ai fait serait j'ai déjà fait les décors, le costume, le scénario et ainsi de suite. Après, faut travailler avec. Et c'est là en fait la grosse différence entre le métier de costumière et ce que je fais un peu en ce moment, c'est que le métier de costumière, vous êtes tributaire d'une équipe. D'une équipe mettant en scène comédien, danseur, machin. Moi, dans le côté artistique, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que là, je présente mon installation. Elle peut se suffire à elle-même.
Oui, tout à fait.
Mais moi, j'aimerais bien qu'elle ne se suffise pas qu'à elle-même.
Vous êtes en train de mêler, en fait, les deux parties de votre vie. Ouais. C'est-à-dire que vous réunissez les deux phases de votre activité au travers de cette réunion. Alors, on a parlé un petit peu de la façon dont vous vous y preniez pour réaliser vos œuvres d'art, et notamment au processus, et puis le nouveau rapport que vous avez avec le public. Et alors, justement, je voudrais rebondir là-dessus, sur l'influence que l'environnement peut avoir sur vous. Alors, l'environnement, ça peut être aussi la cause écologique, parce que vous m'avez dit tout à l'heure en aparté que voilà, c'était quelque chose qui avait une importance à vos yeux.
Alors, ça a essentiellement une importance dans le sens où... cette installation que j'appelle Lueur, je l'ai commencée bien avant le confinement parce que j'ai des amis de confession musulmane et moi je me suis beaucoup intéressée à la condition des femmes et tout. Et après, alors travailler sur une œuvre qui parle d'enfermement et se retrouver 6 mois après enfermée... Je trouve que c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, c'est fou, cette histoire. Et pendant ce premier confinement, j'ai pu tout finir. Une grosse partie. Et en plus...
ça a pris sens à vos yeux, alors.
Ça a pris complètement sens. Ouais. Ça a pris complètement sens. Avec, en plus, le travail des femmes de la broderie, les petites mains. Qui a fait les masques?
Oui, tout à fait. Hein.
Qui a fait les masques? On est reparti. Qui s'est fait traiter comme de la merde? À qui on a demandé de faire des masques gratuitement? Ben oui, soyons machin. Jamais on aurait demandé à des mecs d'aller faire des masques gratuitement. Parce que les mecs, ils auraient dit, et ils avaient bien raison, vous me payez.
Tout à fait.
Parce que tous les gars qui ont fait des masques, c'était des chefs d'entreprise et tout, qui ont embauché des bénévoles. Donc tout s'est mélangé en même temps, quoi.
Oui, ça a retenti de plein de façons différentes.
Ça a retenti complètement. Et ce qui me fait drôle, c'est que... Alors que j'ai des tas de potes qui ont commencé à travailler sur le Covid, les masques, machin, au niveau artistique, moi je me retrouve à avoir travaillé là-dessus avant.
Oui.
C'est quand même étrange. D'avoir commencé à travailler là-dessus avant.
Votre processus a démarré avant l'expérience.
Bien avant. Avant, parce que pour moi, c'était le retentissement de tout ça, c'est que...
Peut-être que la crise a fait ressortir aussi tous ces aspects-là. Nous maintenant chez
bien
nous,
sûr.
Elle nous a ramenés à ceux qui sont chez eux à travailler pour les autres, pour la
c'est
société.
Ça. Et puis, moi, dans le fait que j'ai décidé depuis quelques années d'acheter le moins de choses pour travailler, c'est-à-dire que le déchet dans le milieu artistique, c'est un truc qui me dépasse. Quand je voyais les poubelles remplies à la fileuse, c'était... Enfin bref. Donc moi, je récupère. Depuis des années, alors je n'achète que la peinture, parce que la peinture, puis j'ai pas envie de faire une formation chimique, enfin, de petit chimiste pour faire mes peintures, mais je récupère un maximum de choses, j'évite de jeter, c'est-à-dire que ce que je découpe d'un côté, je vais le réutiliser d'autre chose, je récupère des choses de mes amis artistes, en ne jetez pas ça,
Ça nourrit aussi votre...
Ça nourrit parce qu'en fait, moi, j'ai besoin d'avoir un...
D'être en accord avec votre environnement,
déjà,
peut-être.
Et puis d'avoir un... Comme si j'étais un peu pas serrée dans quelque chose, mais...
Participer à une chaîne, à un cycle de recyclage.
Comme si je m'imposais une contrainte.
Oui.
Oui, c'est ça.
Et cette contrainte, elle vous permet de créer, finalement.
Ouais. je m'impose une contrainte de dire non, je n'irai pas. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, ah bah tiens, il y a machin qui vend des vieux draps et tout. Non, j'achèterai pas. Mm-hmm. Je dis où le parcours de ton armoire à la déchetterie passe par chez moi. Mm-hmm. Mais j'achèterai pas. Mm. On fera un troc, on fera ce que tu veux si voilà. Je dis mais ce qui passe, ce que je récupère moi, c'est avant la déchetterie. Mmh.
C'est une transmission finalement, ouais. Là aussi.
Et je trouve que actuellement, on est vraiment, on est pile poil là-dedans en ce moment, mmh, avec la catastrophe écologique mondiale de la pandémie. Mmh. Les masques, les flacons de vaccins. Moi, j'ai une pharmacienne qui me récupère les flacons de vaccins, mmh, pour que je puisse ranger mes peintures, parce, mmh, que c'est du verre. Donc, ouais. Voilà. Les Inuits au Canada commencent à trouver des masques dans les estomacs des phoques qui mangent, parce que de toute façon, ils sont obligés de manger des phoques, il n'y a que ça à manger. Mais bon, je trouve que moi, si mon petit impact, ma petite part du colibri, c'est non, je travaille les matières naturelles nobles que j'évite à la déchetterie. Mm. Et puis, bon, il faut
sans
être clair aussi.
Sans participer à la surconsommation.
Financièrement, c'est... Mm. Financièrement, c'est plutôt intéressant, mais l'impact écologique et économique est hyper important. Oui. C'est pour moi, c'est primordial. Hein. Mm-hmm. Alors, comme je connais quand même plein de gens, parce qu'en parallèle de mon métier de costumière, je donne des cours de couture, donc j'ai toujours des gens qui me disent « Oh bah tiens, machin est décédé, elle cousait, est-ce que tu veux récupérer des tissus ?» Mm-hmm. Moi, j'ai fait des tas de spectacles. Le metteur en scène ne l'a jamais su. Mmh. Les metteurs en scène et les chorégraphes n'ont jamais su. Mais j'ai fait des tas de costumes de spectacles où ça n'est que du tissu de récup.
Mmh. Et ça prouve que c'est faisable.
Bah, bien sûr que c'est faisable. Alors, il ne faut pas le dire. Il faut dire, ah tiens, je t'ai trouvé ça dans un magasin. Mais pas du tout. J'ai trouvé ça dans un stock. Bon. Et c'est faisable. Mmh. Et c'est un vrai plaisir de se dire je n'ai pas impacté la planète. Mon travail n'a pas impacté la planète.
En produisant du nouveau, voilà. En produisant,
en produisant du déchet.
Voilà, du déchet.
Mmh, en produisant aussi. Du déchet, c'est ça le truc. Mmh.
Alors justement, ça va nous permettre de faire le lien avec la dernière partie sur la transmission. Mm. Donc on parlait donc là d'appartenir à une chaîne de recyclage, mais il y a aussi il y a la chaîne du savoir-faire. Mm. Alors est-ce que vous avez envie de transmettre ce que vous savez, ce que vous avez appris, vos techniques à d'autres personnes ?
Alors moi, en parallèle de mon boulot de costumière, j'ai toujours donné des cours. Mm-hmm. C'est-à-dire que dès que j'ai arrêté dans l'éducation nationale, j'ai commencé dans les maisons de quartier. Mm-hmm. Et puis, depuis une petite dizaine d'années, c'est dans mon atelier chez moi où je donne des cours. Et de temps en temps, j'accepte un stagiaire quand je suis à peu près en forme, on va dire. Et c'est vrai que j'aimerais donner des cours de couture dans des lieux où on travaille le textile, mais pas avec les techniques. Et donc... je sais pas, les SAD, l'école de la marionnette, enfin des endroits comme ça, où je trouve que les idées des étudiants sont incroyables. Ouais. Des idées que j'aurais même pas moi, et puis sont incroyables. Enfin voilà, des trucs des original. Fois totalement délirants. Mmh. Et je me dis, mais punaise, s'ils avaient la technique pour fabriquer ça, ce serait ultra délirant. On passerait dans des choses autrement plus intéressantes.
Ça, c'est ce que vous avez envie d'apporter aujourd'hui. Ouais. Et quel conseil vous donneriez justement à ceux qui se lancent dans la technique, le conseil pour qu'ils ne se découragent pas finalement ? Parce que ça peut sembler ardu d'apprendre toute cette technique. Ça peut sembler
D'abord, on n'apprend pas en un jour, déjà. Moi, j'ai... j'ai fait des retouches dans des magasins pendant des années, donc j'ai énormément appris de technique parce que j'ai démonté, refait, et ainsi de suite. Moi, le gros conseil que j'aurais envie de donner, c'est la patience.
C'est le plus dur aujourd'hui. C'est le plus dur. Vous pensez que les jeunes générations ont peut-être plus de mal avec ça ou pas ?
Ah, mais ils n'ont pas de patience. C'est pas qu'ils ont du mal avec. Mm. C'est que ils n'ont pas de patience. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous ouvrez votre ordinateur, vous faites YouTube, couture, machin, et ça vous semble tout de suite extraordinaire. Mm-hmm. Alors qu'en fait, non. Mm. Et moi, c'est ça. C'est-à-dire que la blague que je dis toujours à mes élèves, c'est qu'il y en a qui arrivent, « Ah ouais, j'aimerais bien apprendre à coudre. Ah, tu penses que je pourrais faire ma robe du 31 décembre ?» Et je réponds, de quelle année ? Parce que les techniques, ça s'apprend au fur et à mesure. Et puis, il faut faire, fabriquer.
Passer des heures et des heures de travail, et fabriquer, ça, c'est difficile. Ouais.
Et le problème de la couture au sens large, c'est que ça ne paye pas. Donc, faire. Si vous n'avez pas la passion, ça ne marche pas.
C'est un métier qui demande quand même, qui est exigeant.
Ouais, c'est un métier qui est très, très, très exigeant. Et autant on va reconnaître l'exigence, la couture, vous travaillez du matériau souple, le ferronnier, il va travailler du métal et l'ébéniste du bois, mais on a tous les mêmes plans, on a tous les mêmes... sauf que ferronnier et ébéniste, vous allez accepter d'y mettre le prix, et la couture, non.
Ouais. C'est dû au marché international, là, par contre.
Alors, la question est, est-ce que ferronnier et menuisier, c'est des boulots de mecs et la couture des boulots
aussi,
de femmes?
Ça entre en jeu, tout à fait, avec le regard qu'on porte sur ce travail-là, la dévalorisation.
Et puis, vous achetez une table ou vous faites refaire la rambarde de votre escalier, ça va vous durer 30 ans. La couture... Vous faites une robe, une veste. Ça va durer un certain temps. Donc, si vous voulez, il y a un côté éphémère dans la couture qui est beaucoup plus présent que sur les deux autres métiers dont je parlais.
Le renouvellement fait partie de la créativité.
C'est ça. Et puis, la mode est devenue un truc où vous avez quatre collections de mode par an. C'est du délire.
Il faut créer à tout prix. Un petit peu.
Oui, puis du coup, on crée, on achète, on jette.
Ouais, voilà. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà.
Alors, je vous ai demandé de présenter des artistes que vous aimez, ou des œuvres. Donc, vous avez réfléchi, vous m'avez dit tout à l'heure.
Alors,
peut-être un artiste.
Sonia et Robert Delaunay, que je ne veux pas dissocier l'un de l'autre. Ils ont énormément travaillé la couleur, les associations de couleurs. Sonia était à cheval sur artisan d'art, artiste, parce qu'elle a fait des costumes de théâtre, elle a fait du papier peint, elle a fait des illustrations de poèmes, elle a fait des tas de choses comme ça. Donc ça, c'est pour le côté peintre et artistique. Et puis dans le domaine plus du textile, Yves Saint Laurent avec son smoking...
C'est quelque chose qui vous a marqué fortement.
Parce que il a sorti du vestiaire masculin un vêtement qui a amené une liberté aux femmes, le droit d'être en pantalon et d'assumer les choses et voilà. Et puis le deuxième, c'est Jean-Paul Gaultier qui pour moi est le top, qui lui a dégenré la mode. En tant qu'homosexuel, il n'a pas mis la femme sur un piédestal, comme une statue ou je ne sais quoi. Il a pris la femme comme un être humain normal. Et donc, il les a toutes acceptées, les petites, les grosses, les grandes, les noires, les blanches, les vertes, les bleues, tout ce que vous voulez. Et il a fait pareil avec les mecs. Et je trouve que il a amené la dentelle, les jupes chez les hommes, des côtés plus masculins chez les femmes. Et il a fait énormément pour la mode. Je pense que pour le moment, il y a encore des gens qui s'en rendent pas vraiment bien compte. Mais il a fait énormément pour la mode masculine. Vraiment. Parce qu'il y a une grosse injustice dans la mode masculine. Lui, il a essayé de faire ça. Ça n'a pas été bien pris. Une virilité un peu mal placée chez certains hommes. Mais je pense que dans quelques décennies, on se rendra compte de l'avancée.
De l'impact qu'il a eu sur la création. Eh bien, merci beaucoup, Véronique Didier, de nous avoir consacré tout ce temps et d'avoir bien voulu avec nous refaire votre parcours et surtout parler de votre créativité. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant notre invité et son parcours en sous-texte de notre podcast, ainsi que les références concernant ses activités. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler. Vous pouvez également nous écrire au mail du podcast creodyssee@gmail.com pour nous faire part de vos remarques et de vos suggestions. Cet épisode a été réalisé par Eric Blanc, ainsi que la musique est animée par moi-même. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et restez curieux.